journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Après le Dieselgate de Volkswagen, va-t-on vers un Motorgate chez Renault ? Surconsommation d'huile, voiture HS du jour au lendemain. Depuis des années, les signalements s'accumulent autour d'un moteur installé sur plusieurs modèles. Des clients lancent aujourd'hui une action collective contre le constructeur. À chaque jour ou presque son nouveau protocole à l'école, le gouvernement allège les règles de dépistage pour éviter le chaos scolaire et réduire aussi l'attente devant les pharmacies. Nous avons passé toute une journée aux côtés d'une étudiante chargée des prélèvements. Reportage à suivre. Dans ce journal aussi, le 20e anniversaire de la prison de Guantanamo, deux décennies de controverses aux États-Unis, et puis l'Observatoire des inégalités qui crée sa propre version militante du Monopoly.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le footballeur international Patrice Evra. Il publie son autobiographie « I love this game », c'est aux éditions Hugo Sport.
France Inter.
Renault a-t-il minimisé, Alexis, pendant des années, un grave problème de moteur ?
Plusieurs milliers d'automobilistes, propriétaires de Clio, Mégane ou encore de Dacia Docker en sont convaincus. Certains d'entre eux lancent aujourd'hui une action collective en justice contre le constructeur, après déjà une première mise en demeure de l'UFC Que Choisir. En cause, un moteur installé à partir de 2012 sur 400 000 véhicules et qui aurait accumulé les déboires, selon ses plaignants, surconsommation d'huile, baisse de puissance et même parfois la casse impromptue du moteur. Les témoignages de panne se sont accumulés sur un groupe Facebook et aujourd'hui, ses clients demandent donc des comptes, Laurent Kramer.
En septembre 2018, Olivier Blanchet consulte son concessionnaire. Verdict, le moteur Renault de sa Dacia Docker est hors d'usage 5 années seulement après sa mise en circulation.
Quand le diagnostic est posé, on nous annonce tout de suite que le devis de remplacement va être certainement aux alentours de 8 à 10 000 euros pour le remplacement du bloc moteur, donc on commence déjà à s'affoler. Après, on nous demande de sortir, de fournir toutes les factures d'entretien du véhicule. Donc, on commence à se dire que là, il y a quelque chose d'anormal qui se passe.
Olivier Blanchet fait alors le tour des forums sur Internet. Remarque qu'il n'est pas seul. Sa page Facebook sur le sujet recense désormais 4000 propriétaires qui accusent Renault de minimiser les faits et de ne pas prendre à sa charge les réparations. L'avocat Christophe Legvac lance aujourd'hui une action collective contre le constructeur ouverte à tous les propriétaires concernés.
Nous allons poursuivre Renault en responsabilité pénale, donc ça veut dire que nous avons déjà dans le dossier des éléments qui nous permettent de démontrer sa connaissance du vice depuis 2014-2015 avec une surconsommation d'huile moteur et dans un deuxième temps il y a un risque de casse moteur. C'est une politique délibérée qui a été mise en place par Renault de ne pas faire face à ses responsabilités.
Renault assure de son côté avoir procédé à des réglages et aux demandes de prise en charge sur les véhicules concernés. Les propriétaires estiment que tous les véhicules auraient dû être rappelés pour défaut de sécurité.
La menace d'un Motorgate chez Renault, dossier signé Laurent Kramer.
Il est 7h33, à 2 jours de la grève. Jean Castex veut en finir avec la pagaille sanitaire à l'école.
Alors le Premier ministre annonce un allègement du protocole. Désormais, lorsqu'un élève est cas contact, plus besoin de faire un premier test antigénique ou PCR. Un autotest suffira, suivi de 2 autres à J+2 et J+4. Et il n'y aura plus qu'une seule attestation sur l'honneur à fournir. Par ailleurs, lorsqu'un cas positif est détecté dans une classe, les camarades cas contact pourront rester à l'école jusqu'à la fin de la journée. Les parents n'auront plus à venir les récupérer immédiatement. C'est à retrouver en détail sur franceinter.fr. Voilà qui devrait en tout cas mécaniquement réduire les files d'attente devant les laboratoires et les pharmacies. 1,5 million de tests sont réalisés chaque jour en ce moment. Ceux qui doivent se faire dépister redoublent de patience et ceux qui testent doivent faire preuve d'endurance. Une journée dans ma vie de préleveur, c'est le reportage de Delphine Evenou à Paris.
Ici, pas de barnum, mais un petit cabanon en tôle, presque le luxe.
Comme ça, on n'a pas de vent, on n'a pas trop froid non plus.
2 à 3 fois par semaine, Diamanta, étudiante infirmière de 21 ans, y passe toute la journée.
Bah écoutez, je commence à 8h à l'ouverture de la pharmacie et j'arrête les tests à 19h30. C'est des longues journées quand même pour pouvoir tester tout ce monde parce qu'on est à peu près entre 200 et 400 tests par jour.
C'est bon, vous pouvez y aller, vous recevrez les résultats par mail d'ici une quinzaine de minutes.
Écouvillon qui rentre, qui sort, gestes répétés à l'infini, Diamanta est presque devenue une machine.
C'est ça, j'ai pas le choix.
Allez vite, à avec le sourire pour éviter les tensions. Dans cette pharmacie, ça fonctionne, assure l'étudiante.
Les gens, ils sont plutôt cool, ils attendent, ils sont très corrects.
En ce moment, un tiers des testés sont des enfants.
C'est toujours avec la poussette ou pas ?
C'est pour la petite ?
Ouais.
Je vais me mettre devant.
Et pour le reste, en grande majorité.
Les cas contacts ?
Ouais.
Okay. Alors, pour continuer à côtoyer le virus sans être contaminé à son tour, il faut ruser.
Pour vous dire, j'ai toujours pas été contaminée avec le variant Omicron. Après, je me teste tous les jours quand même par précaution. Je mets les gants, le masque et puis il y a quand même une aération. Les gens, ils restent environ 10 secondes à l'intérieur, donc j'ai pas le temps de les toucher, je les touche pas.
Diamanta espère un rythme un peu moins intense d'ici mi-février.
Delphine Evenou, nouvelle étape pour le pass vaccinal. Le projet de loi sera discuté cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Hier en commission, les sénateurs ont déjà apporté plusieurs modifications, notamment un mécanisme d'extinction automatique du pass. L'idée, c'est qu'il ne puisse s'imposer que lorsque le nombre d'hospitalisations Covid dépasse les 10 000 patients et qu'il soit donc retiré en dessous de ce seuil. Ce matin, on en est loin. 22 700 personnes sont hospitalisées pour Covid. C'est 3 000 de plus en une semaine. C'est donc dans ce contexte de flambée épidémique que la campagne présidentielle tente d'exister. À 3 mois du premier tour, l'exécutif lance aujourd'hui une concertation avec tous les partis et les candidats. Première réunion ce matin pour essayer de s'entendre sur les aménagements possibles. Comment faire campagne malgré les contraintes sanitaires ? C'est tout l'enjeu, Yael Gauz.
Le virus est-il en train de priver les Français d'une vraie campagne ? Face au risque de polémique, Emmanuel Macron avait déjà tenté de rassurer lors de ses vœux.
Ces scrutins essentiels devront se dérouler dans les meilleures conditions possibles. J'y veillerai, tout particulièrement.
Mais pas lui, directement. Et pour cause, il sera un acteur de la campagne. Ça se passe à Matignon. Concertation en visio. Tout le monde pourra mettre ses idées au pot commun. Le candidat communiste Fabien Roussel veut que les masques FFP2 distribués dans les meetings soient remboursés par l'État. Nicolas Dupont réclame plus de spots et de débats à la télé pour compenser l'absence de grands meetings. Pour Yannick Jadot, le fiasco des professions de foi, arrivé trop tard l'an dernier dans les boîtes aux lettres, ne doit plus se reproduire. Égare à l'abstention, prévient Jean-Luc Mélenchon, le Covid ne doit pas dissuader de s'inscrire sur les listes avant le 4 mars prochain.
Organiser des campagnes pour l'inscription et faciliter les conditions, par exemple, en rendant possible celle-ci à distance par les moyens Internet dans toutes les communes du pays, serait une grande chose.
Et pour les jauges, chacun fait ce qui lui plaît ? Constitutionnellement, oui, mais les marcheurs voudraient un code de bonne conduite. Aucun arbitrage ce mardi, c'est la première réunion. Matignon installe ce comité aux ambitions modestes. Définir une méthode pour se revoir à intervalles réguliers et maintenir, ce sera difficile, un minimum de cohésion entre les candidats.
Explication signée Yael Gauz. Pour la troisième fois en 4 mois, la justice étudie ce matin une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubilard, l'artisan de Cagnac-les-Mines dans le Tarn est en détention provisoire depuis 6 mois maintenant, soupçonné du meurtre de son épouse Delphine, toujours introuvable. L'opération date de vendredi dernier, elle est révélée ce matin. Pour la première fois, des chirurgiens américains sont parvenus à greffer un cœur de porc sur un humain, un homme de 57 ans. Pour les médecins du Maryland qui en sont à l'origine, cette innovation chirurgicale pourrait être une solution à la pénurie d'organes aux États-Unis. On y revient en détail dans le journal de 8h. Les États-Unis qu'il y a 20 ans, jour pour jour, enfermaient leurs premiers détenus à Guantanamo. Depuis, ils sont 780 à être passés par cette lointaine prison installée sur une base américaine à Cuba. Au fil des années, les controverses se sont multipliées, comme les promesses de fermeture jamais appliquées. Retour sur ces 2 décennies tumultueuses avec Sébastien Paour.
11 janvier 2002, 4 mois jour pour jour après les attentats du 11 septembre, les 20 premiers détenus arrivent sur la base de Guantanamo. L'objectif de l'administration Bush est clair, priver les accusés des protections constitutionnelles américaines. Le président de l'époque s'en cache à peine, interrogé ici lors d'une visite d'école en mars. Rappelez-vous, ceux de Guantanamo sont des tueurs. Il est donc dans notre intérêt national de nous assurer que nous en savons suffisamment sur eux avant de décider de leur sort. Le camp abrite 277 prisonniers en 2002. 2008, quand Barack Obama est élu. Il s'est engagé à le fermer en un an, comme il le rappelle dans cet entretien à 60 Minutes sur CBS. Je l'ai dit et répété, j'ai l'intention de fermer Guantanamo et j'irai jusqu'au bout. 2 mandats plus tard, Guantanamo compte encore 61 détenus. Obama admet son échec. C'est vrai que je n'ai pas été en mesure de fermer Guantanamo. Donald Trump s'installe dans le bureau ovale et annule l'ordre de fermeture. Quand Joe Biden devient président il y a un an, il est plus prudent sur le sujet. Par la voix de sa porte-parole, Jen Psaki, c'est certainement notre objectif et notre intention. 10 détenus sur les 39 encore à Guantanamo attendent d'être jugés par une commission militaire, commission qui n'a formulé que 2 condamnations en 20 ans. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et ce matin encore, des experts indépendants mandatés par l'ONU appellent Washington à fermer Guantanamo où se déroulent, je cite, des violations incessantes des droits de l'homme. La pluie s'arrête enfin de tomber sur le sud-ouest de la France. La vigilance rouge au cru est donc ce matin complètement levée. Pas de dégâts majeurs à signaler à ce stade, mais dans les Pyrénées-Atlantiques, la préfecture met en garde contre le risque persistant de coulées de boue.
Et on termine avec un monopoly des inégalités, Alexis, pour coller davantage à la réalité de la société.
Oui, d'habitude, dans ce célèbre jeu de plateau, on aligne les billets et on cumule les propriétés. C'est bien différent dans cette version imaginée par l'Observatoire des inégalités. Les joueurs débutent la partie avec plus ou moins de patrimoine et de revenus, et donc plus ou moins de chances de gagner, Rémi Brancato.
Au début du jeu, on écope d'un personnage et selon qu'on soit en catégorie A, B ou C, ce n'est pas la même affaire.
Aurel, c'est un homme blanc de 55 ans qui est en catégorie
300 euros de revenus, 2 maisons, 2000 euros de patrimoine et 2 dés pour lui, explique Constance Monnier de l'Observatoire des inégalités.
Il part très avantagé pendant la partie. Mohamed, catégorie C, lui, il va commencer avec un salaire de 100 euros et un patrimoine de 600 euros. Et il va avoir un seul dé pour avancer, donc il va avancer beaucoup moins vite.
Au fil du jeu et des cartes événements, on expérimente l'homophobie, le racisme, les inégalités face au coût de la vie. Alors les élèves s'agacent, comme ceux de Malika Meziadi dans son lycée de Seine-et-Marne.
La première question qui arrive souvent lorsqu'ils découvrent leur carte, c'est « Et pourquoi moi j'ai un dé en moins ?»«
Mais pourquoi ?»«
Pourquoi si je suis une femme et que c'est un homme, on n'a pas le même salaire ?»«
Mais ça se fait pas !»
Cette injustice vécue, c'est une injustice pour laquelle les élèves ont envie de lutter contre.
Mais il y a aussi des événements positifs, la carte ascension sociale ou encore la case redistribution, la catégorie A, y verse 100 euros à la catégorie C.
Ça permet de montrer l'importance des impôts dans la réduction des inégalités. On appelle à prendre conscience que certains sont plus favorisés que d'autres et d'essayer de se mettre à la place des autres pour faire avancer les choses.
Un jeu militant, c'est assumé. La carte grève générale permet par exemple d'augmenter tous les salaires des joueurs les plus pauvres.
Le Monopoly des inégalités disponible cette semaine. Vous ne le trouverez pas en magasin, mais sur le site de l'Observatoire des inégalités.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.